Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué.
Grand-mère Rosot n'est pas là ? Non, dit Bertille, elle est partie très tôt ce matin. À Lompon, chez votre oncle Fred.
Le bon Dieu est absent. On devrait rendre un décret pour forcer Dieu à résidence. Il est à sa maison de campagne et ne s'occupe pas de nous. Aussi, tout va de guingois.
Et il prit l'air d'une jolie brunette, plus gentille que les amours. De belles petites joues roses comme une pêche. Un nez retroussé mignon, mignon. Si la nature pense, les paysages sont les expressions de ses idées.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrix, sur Radio U 101.1.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Lyrix. Lyrix, c'est le dernier dimanche de chaque mois à 20h sur Radio U et c'est avec Patricia et Marc. Le mois dernier, nous vous avions lu des extraits du livre Les légendes du pays de Brest, un livre écrit par Michael Madec. Aujourd'hui, nous allons rester dans la région brestoise avec trois nouveaux contes. Le fond de la mer, Les enfants du pêcheur de Kéror et enfin La poisse. Patricia, c'est à toi pour Le fond de la mer.
Nuit noire, brume épaisse, fraîche brise du nord, mer houleuse sans être trop dure. En style de journal nautique et de table de loque, voilà le temps qu'il faisait. 2h du matin venaient de piquer à la cloche du bord. Le capitaine monta sur le pont et donna l'ordre de diminuer de toile. Le prudent Ulysse et le hardi Jean Bart eussent également approuvé cette manœuvre. Car la veille, à midi, le point plaçait le navire à 40 lieues environ de la côte. Et si les cimes de la route parcourue depuis étaient exactes, on devait se trouver dans les passes de Brest. Passes fort dangereuses, comme on peut le savoir. Des bancs de roches se dressent de toutes parts et ne sont que l'indice d'écueils plus perfides cachés sous l'eau. Les courants variables et l'état de la marée compliquent la situation. Le secours d'un habile pilote, pratique des atterrages, est indispensable pour naviguer à travers le dédale menaçant qui hérisse les abords de la rade. Le vieil Arbras d'Ouessant, pilote la manœur juré, n'avait pas quitté son poste de toute la nuit, mais il avait beau cligner les yeux, le feu de la tour, voilé par le brouillard, n'apparaissait pas. « Sans la brume, commandant, dit-il, ce serait péché que rentrer ses bonnettes et serrer ses perroquets avec un joli vent de travers comme ça. Pourtant, sauf votre respect, faites carguer les basses voiles. Les ancres sont en mouillage, c'est bien. Et il y a du monde paré à mouiller, n'est-ce pas ?»« Oui, maître Arbras, répondit le capitaine, on peut jeter l'ancre quand il vous plaira. » Sur 35 brasses de câbles et paré à filer davantage, reprit dogmatiquement le pilote. Comme il vous plaira, répondit encore le capitaine. Personnage obscur et des plus subalternes durant tout le cours de la campagne, le pilote côtier grandit d'une coudée aux approches du port. Alors ses volontés sont des ordres. Le capitaine, qui refuserait d'y condescendre, assumerait sur sa tête la responsabilité de la perte du navire et n'aurait aucune excuse devant le conseil de guerre maritime. Les basses voiles furent carguées et pendirent en festons en dessous de leur vergue. 35 brasses de câbles furent élonguées pour filer avec l'ancre au premier signal. Le plus profond silence régnait à bord. Le pilote examina la carte marine, fit son calcul mental en tenant compte des courants et se tourna tout à coup vers le capitaine. « À présent, dit-il, faites sonder. J'entends la mer qui chante le long des roches. Le vent du nord m'apporte une odeur de varech. Il a passé sur Ouessant. En tout cas, soyons bien parés à l'ancre. » Le vieux pratique prêtait l'oreille et flairait le vent. « Celui-là, murmura Pierre Capucin, le timonier, est plus roué que le grand diable d'enfer. Il sent la terre comme un chien de chasse. » On le croirait sourd et il reconnaît le bruit de la mer sur les brisants pendant que la mer moutonne tout autour de nous. « Je ne suis pas si sourd que je n'entende bien, méchant caïman, dit le pilote avec colère. Et tu ferais mieux de ne pas parler du diable quand nous sommes au vent des pierres noires, à 3 ou 4 encablures peut-être. » Pierre Capucin étouffa un ricanement et se tut. Le capitaine ne put s'empêcher de sourire. Mais déjà, le pratique était absorbé dans ses fonctions délicates. Il attendait qu'on eût sondé, pour être bien sûr que ses sens déliés ne le trompaient point. Cependant, l'officier de service, d'après les ordres du capitaine, dirigeait la manœuvre. Les matelots, destinés à filer la ligne de sonde, se portèrent en dehors, tandis que les autres, rangés sur les cordages, obéissaient au commandement bref et précis du chef de quart. La vitesse fut amortie, et quand le navire ne bougea presque plus, le marin qui tenait le plomb obéit au signal parti de l'arrière et le lança le plus loin qu'il put en criant « Veille, veille, veille !» Chaque matelot avait entre les mains un rouleau de la longue ligne, et en la coulant au plomb qui descendait rapidement, chaque matelot répétait à son tour « Veille, veille, veille !» C'est toujours une scène imposante, curieuse et qui étonne singulièrement les passagers que cette opération du sondage, que ces voix qui se succèdent en se rapprochant, comme le cri militaire. « Sentinelle, prenez garde à vous !» que se jettent l'un à l'autre les factionnaires d'une place forte. Enfin, une voix plus sonore que les autres s'interrompit elle-même en disant « Fond !» L'énorme bloc de plomb venait de toucher. La ligne s'était arrêtée entre les mains de Pierre Capucin, qui ajouta « 60 brasses !»« Bien !» dit le pilote. « Voyons l'espèce du fond !» L'équipage hissait à présent, main sur main, le volumineux saumon que Pierre Capucin rapporta en dedans sur son épaule et qu'il présenta au pilote. Celui-ci prit gravement son couteau, détacha une épaisse tranche de suif, destinée à recevoir l'empreinte du fond, et la posa sur une assiette que tenait un mousse. On entendit un son mat, un son métallique, lorsque le suif toucha le bord de l'assiette. Le pilote tressaillit. « À mon compte, dit-il, le fond devrait être de roche et non de gros gravier. » Le capitaine frissonna. Si le pratique s'était trompé, l'on pouvait être en perdition. « Que faut-il faire, pilote ? Parlez ! Parlez ! » s'écria-t-il. « Doucement, capitaine, on apporte le fanal. Nous allons voir. » Pierre Capucin accourait en effet avec un fanal qui éclaira tout à coup l'assiette. Un cri de surprise s'échappa de toutes les bouches. Une grosse pièce de métal brillant était collée au suif. « Fond d'écu de 6 francs !» murmura Pierre Capucin. « Le diable bat monnaie au vent des pierres noires !»« Tais-toi donc, damné maudit !» reprit encore le pilote en faisant un signe de croix. « Commandant, poursuivit-il, tout va bien. » À côté de cette pièce d'argent, vous voyez ces marques en creux, ces fonds de roche, comme je disais. Nous ne risquons rien. Dans un quart d'heure, nous devons trouver sable fin mêlé de coquilles. Le capitaine respira plus librement. Il rendit l'assiette à Pierre Capucin. Et cet argent ? Demanda le timonier. Ce qui tombe dans le fossé est pour le soldat. Ce qui mord au plomb est pour le sondeur. Merci, commandant. Le navire commença de courir en bonne route. Toutes les prévisions du pilote se réalisèrent. Un quart d'heure après, la sonde rapporta sable fin mêlé de coquillages brisés. Puis, la profondeur de la mer diminua graduellement, et l'on arriva par 15 brasses. Le vieux pratique jugeait parfaitement de la position du navire. Toutefois, le labyrinthe d'écueils qu'il fallait traverser ensuite était trop compliqué pour continuer à faire voile sans autre guide que les sondes. « Dans 5 minutes, nous mouillerons, » dit Arbraz. « Dans 5 minutes, soit, » répondit docilement le capitaine. Mais le brouillard était rapidement chassé par le vent du nord. Toutefois, le ciel devint clair tout d'un coup et l'on aperçut à la fois le phare d'Ouessant et celui de la pointe Saint-Mathieu. « Il n'y a plus de soin, commandant, » s'écria le vieil Arbraz en se frottant les mains. « Sainte-Anne nous envoie cette éclaircie. J'y vois aussi bien qu'en plein midi. Laissons nos ancres au beau soir. » Faites de la toile, profitez de la brise et gouvernez droit. Toutes les voiles de beau temps furent établies de nouveau. Au point du jour, l'ancre tombait. Non par précaution et de crainte d'erreur, mais parce qu'on était arrivé à destination, en rade de Brest.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens. Un mordi, j'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. » C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance. C'est le pied, dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure son homme qui la quitte. La mer, c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents, foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau. Les Cavardi, Pajot, Kersauzon et Riedel naviguent pas sur des cajots, ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requin.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me n'en allerons de lapin.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrics, sur Radio U 101.1.
Voici maintenant Les enfants du pêcheur de Kéror.
C'était un vieux pêcheur qui habitait à Kéror avec sa femme. Celle-ci n'était plus en âge d'avoir des enfants et il n'en avait jamais eu. Une année, le temps était si mauvais qu'il n'attrapait absolument aucun poisson, de sorte qu'il fut obligé de chercher une autre source de revenus. Il eut beau faire de son mieux, son labeur ne lui rapportait qu'à grand-peine de quoi survivre. Du coup, il reprit la mer en se disant que, si maigres que soient ses gains à la pêche, il l'était moins qu'à travailler la terre, comme il venait d'essayer. Un jour, il sortit en mer. Arrivé au large, il jeta son filet et attrapa un poisson doré. « Jamais, malgré mon grand âge, dit-il, je n'ai vu semblable poisson. Je parie que j'en tirerai un bon prix. Au moins aujourd'hui, je n'ai pas perdu mon temps. »« Remets-moi à la mer, lui dit alors le poisson. »« Il n'en est pas question, répondit le pêcheur, d'autant que si tu sais parler, ta valeur n'en est que plus grande. »« Tu ferais mieux de me rejeter à l'eau. » « Tu ne le regretteras pas. Au final, tu y gagneras bien plus qu'en me vendant. » Le pêcheur se laissa convaincre. Il rejeta à l'eau le poisson doré. Il ne lui restait qu'à donner un nouveau coup de filet. C'est alors que la mer autour de lui se mit à bouillir tellement il y avait de poissons. Il ramena son filet. D'un seul coup, son bateau fut rempli de poissons et il ne resta qu'à rentrer chez lui. Le lendemain, il sortit à nouveau en mer. Cette fois, il attrapa un autre poisson doré, un peu plus grand que celui de la veille. Ce poisson aussi lui demanda de le remettre à la mer, ce que fit le pêcheur. De nouveau, il fit une pêche miraculeuse, qu'il vendit pour un bon prix, comme la précédente. Le voilà très à l'aise. Le troisième jour, il repartit en mer et il attrapa encore un beau poisson doré qu'il s'apprêta à rejeter à l'eau. « Non !» dit celui-ci. « Désormais, chaque jour, tu attraperas tous les poissons que tu voudras. Moi, il va falloir me manger. Mais seule ta femme et toi en aurez le droit. De retour chez toi, tu me feras cuire à l'eau. Après quoi, tu jetteras cette eau de cuisson en la répartissant dans les coins de ton courtil. Tu mélangeras mes écailles à la nourriture que tu donneras à ta jument. Avec mes arêtes, tu feras de même pour ta chienne. Et ta femme et toi mangerez ma chair. Dans 9 mois, ta femme aura un enfant. La jument aura un poulain. La chienne aura un chiot. Enfin, au coin de ton courtil, auront poussé 2 arbrisseaux, dont chacun portera une rose et une épée. Désormais, tu ne seras plus pauvre. » Le pêcheur rentra chez lui avec sa pêche et fit en tout point ce qu'on lui avait dit. Au bout de 9 mois, sa femme accoucha de 2 jumeaux. La jument eut 2 poulains et la chienne 2 chiots. Enfin, 2 arbrisseaux avaient poussé dans le coin du courtil. Tout comme il l'avait été annoncé, à ceci près que les jumeaux, les poulains, les chiots, les roses et les épées étaient en tout point semblables. Devenu riche, le pêcheur fit donner une bonne éducation à ses fils. Le jour de leurs 18 ans, Finch, l'un des 2 jumeaux, alla trouver son père. « Père, dit-il, j'ai envie d'aller découvrir le monde au lieu de me contenter de Kerhor et de Brest. » Le père lui donna 500 écus. Finch, avant de partir, se rendit avec son frère devant les 2 arbrisseaux. Il prit une des épées et déclara « Lorsque tu verras que la rose de celui-ci sera fanée et que l'arbre dépérit, il faudra que tu te lances à ma recherche. D'ici là, ne parle pas de ceci à notre père. » Arrivé à Nantes, Finch se rendit à la cour du roi. Les courtisans et le roi lui-même le prirent pour un prince, au vu de sa mise magnifique et du beau cheval qui le portait. Le roi, qui avait une fille à marier, lui fit bon accueil. Finch, ayant vu cette fille, se dit qu'elle ferait une bonne épouse, de sorte qu'il la demanda en mariage à son père, lequel accepta et on célébra les noces sans tarder. Le lendemain, la princesse avertit son mari qu'il ne devait en aucun cas, quand il irait dans le jardin, suivre le lièvre blanc qu'il y verrait. « Car, dit-elle, plus d'un en est allé à sa poursuite et aucun n'est réapparu. Donc ne le suis pas, sinon tu cours à ta perte. » « Très bien, répondit Finch. Néanmoins, j'irai voir ce que c'est que ce lièvre. » Il se rendit dans le jardin, vit le lièvre et se mit à le suivre. L'animal boitillait. Finch se dit qu'il serait facile à attraper, mais à chaque fois qu'il allait mettre la main dessus, le lièvre s'échappait. « Attends un peu, dit-il, je vais chercher mon cheval et mon chien. On verra ce qu'on verra. » Et il se lança à la poursuite du lièvre qui lui échappa et l'entraîna ainsi vers son refuge où il pénétra, dans une grotte sous une roche. Finch descendit de cheval, bien décidé à continuer la poursuite, lorsqu'apparut devant lui une vieille femme. « Tiens, dit-elle, voici un poil de mon menton, avec lequel tu pourras attacher ton cheval ici. » Il prit le poil que lui tendait cette vieille sorcière, pénétra dans la grotte, suivi par celle-ci. À peine y était-il qu'elle le paralysa. Le voici pris et comme mort parmi une foule d'autres jeunes hommes attrapés de la même façon. Cela faisait un an et un jour que Finch avait quitté Kerror. Son frère alla au Courtil et constata que la rose de son frère y était toute fanée et courbée jusqu'au sol. Il en informa leur père et partit aussitôt à la recherche de son jumeau, avec son cheval, son chien et son épée. Arrivé à Nantes, tout le monde était à la recherche du jeune prince qu'on n'avait pas vu depuis 3 jours. Lorsqu'on vit le voyageur, il sembla à tous que c'était lui l'époux de la fille du roi. On le conduisit auprès de celle-ci. Elle lui sauta au cou en disant « D'où viens-tu ? Je craignais que tu ne sois parti à la suite du lièvre. Mais j'arrive de Kerror, mon pays. » Il conclut de ce qui arriva que son frère était l'époux de la princesse, mais ne dit mot. Le soir, il alla se coucher auprès d'elle. Le lendemain, celle-ci lui recommanda fermement de ne pas suivre le lièvre blanc. « Il n'en est pas question, répondit-il. Je n'irai pas. Si je ne le vois pas, ajouta-t-il en son fort intérieur. » La première chose qu'il fit fut de se rendre au jardin. À cheval, son chien les suivant, il se mit à la poursuite du lièvre. De la sorte, il arriva au refuge de celui-ci, où l'animal disparut dans la grotte. Apparut alors la vieille sorcière. « Prends ce poil, dit-elle, et entre à la suite du lièvre, comme l'a fait ton frère. Je vois bien que mon frère est par ici, son cheval et son chien sont là. » Sans un mot, il dégaina son épée et coupa un bras de la sorcière. Celle-ci, de l'autre bras, ramassa celui-ci qui était coupé et le remit à sa place, comme si de rien n'était. « Vous aurez beau recoller votre bras, déclara-t-il. Quand je vous couperai la tête, vous ne pourrez pas la remettre en place. C'est ce que je vais faire si vous ne me rendez pas mon frère vivant. »« Rentre dans la grotte, répondit la vieille, et tu y verras ton frère. » »« Oui, mais c'est vous qui allez passer en premier. Et si vous ne me rendez pas mon frère, vous pouvez dire adieu à votre tête. Et faites attention, je ne plaisante pas. » La vieille fut bien obligée de le précéder. Elle ramena Finch, de même qu'un grand nombre de jeunes gens de tout pays qu'elle avait ensorcelés. Les deux frères retournèrent de ce pas à Nantes. La princesse était à la recherche de son époux lorsqu'elle vit venir à elle les deux jumeaux semblables en tout point, de même que leurs chevaux, leurs chiens et leurs épées. « Lequel de vous deux est mon époux ?»« C'est moi, répondit Finch. J'ai poursuivi le lièvre blanc. J'ai été bien attrapé pour ne pas avoir suivi votre recommandation. N'eût été mon frère, je ne serais jamais sorti de ce mauvais pas. » Celui-ci ne pit pas mot à propos de ce qui s'était passé la nuit précédente entre la princesse et lui. Il n'était pas idiot. Il rentra à Kerror, où il finit par s'ennuyer. De là, il vint s'installer au bourg de Guipava. C'est là que j'ai entendu cette histoire de la bouche d'un de ses petits-enfants.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing,
Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My, my.
Et enfin, nous terminons avec la poisse.
Il était très courant dans les professions à risque de rencontrer ce qu'on appelle des superstitions, ou à tout le moins des croyances. C'est de longue date le cas parmi les marins. Il suffit de peu de choses pour que, d'une seconde à l'autre, ils se retrouvent, comme on dit, à faire leur trou dans l'eau. À la différence du paysan qui part travailler au champ, le marin qui sort en mer n'est jamais sûr d'en revenir. Bien sûr, il y a les dangers d'évidence. L'état de la mer, les coups de tabac, les courants, les récifs, les filets qui se prennent dans une roche et vous entraînent, les guillotines à couper le goémon qui vous broie la poitrine. À l'époque de la navigation à voile, un simple bout qui se raidissait brusquement pouvait vous couper plusieurs doigts. Une lame inattendue vous faisait basculer par-dessus bord à jamais. D'autres peurs n'avaient pas de base matérielle, dont celle de la poisse. Ce que les arboristes du Cap Sizun appellent arbore. Et, comme le conte que voici a été collecté dans le Cap Sizun, gardons le mot d'origine. Arbore, c'est la malchance maligne qui s'accroche à vous, la guigne persistante, la poisse bien collante. Elle explique tout ce qui va de travers. L'absence de poissons lorsque les conditions de pêche sont idéales, par exemple, et toutes sortes de mésaventures qui s'enchaînent et se répètent. Ce n'est pas seulement une abstraction, une peur imprécise et théorique. Certains individus l'ont. À Douarnenez, on les appelle des ampères, probablement empruntés au verbe français « empêcher ». Quand un ampère était repéré, identifié dans un équipage de chaloupe sardinière, il ne restait plus qu'à le débarquer. Tous les autres étaient convaincus qu'avec lui à bord, on ne pêcherait pas. Le marin dont nous allons parler était un de ces ampères. Il avait arbore. Débauché d'une barque à l'autre, d'un port à l'autre, dès qu'était reconnue sa mauvaise étoile, il avait fini par quitter la Cornouaille parce qu'il fallait bien vivre. Le voici échoué sur le port de Brest. Là, arbore continuait à le suivre pas à pas, comme l'ombre derrière l'homme par un jour ensoleillé. Il survivait, faisant les mille petits métiers que les vrais marins, loups de mer et autres caporniers méprisent. Même pas un vulgaire écraseur de crabes, tout juste bon à raser le rivage. Un rien, le néant. Bon à donner un coup de main pour trimballer des paniers vides, ou nettoyer des filets, ou récurer des cuves. Et encore, en gardant un œil sur lui, un accident est si vite arrivé, surtout quand il était autour. Il passait le reste du temps à tituber d'un bistrot à l'autre, à une époque où il y en avait des dizaines à un jet de chic de bassin, de ces cabarets plus ou moins infâmes. Tiens! À propos de femmes, à lui les femmes de mauvaise vie, vieillissantes, à lui l'eau-de-vie la plus dégueulasse. Pas une vie d'ailleurs, désespérée, même plus le goût de la mort dans tout ce qu'il consommait, l'ombre de l'encou dans tout ce qu'il faisait. Il avait fui et avait retrouvé, après s'être exilé, la même malchance impitoyable qui le poussait à envisager de le faire de lui-même son trou dans l'eau. Seulement retenu par le dégoût de l'eau du port. Si encore il avait pu faire ça proprement en mer. Mais personne ne l'avait pris à bord. Trop connu, trop risqué. Pas pour lui, mais pour le bateau et l'équipage. Pas question. Sac à terre et reste-y, mon gars. T'as pas de sac ? Bah, allez, viens boire un coup, c'est ma tournée. On le connaissait. Depuis longtemps, il connaissait tous les autres habitués du port. Ce jour-là, un inconnu l'aborda. Oh, pas un Pékin endimanché ! Un de son genre, sale, débraillé, les vêtements prêts à tomber de son corps comme le font les fruits trop mûrs. Et où vas-tu donc ?
Nulle part, je ne sais pas. J'ai la poisse.
Allons-y de concert. Et les voilà partis, bras dessus, bras dessous, à faire les 100, les 1000, les 10 000 pas sur les quais de Port-Strin et autres lieux. Quand on est sous, on se soucie peu du nom de celui avec qui on est embordé. On a la sympathie immédiate, informelle, ou l'antipathie épidermique. On boit, on cause, on sort, on rentre, on reboit, on recause. À force de causer, pourtant, même si la boisson amène à répéter 10, 100 fois la même chose, voici notre matelot, et toujours cornouaillé exilé, qui s'interroge et finit par poser la question à l'autre. « À propos, qui es-tu ? Ça fait des heures que tu m'accompagnes, et je ne sais même pas ton nom. »« Tiens, il y a bien longtemps que je te connais, moi. Je suis Arbor, la disette et la malchance. »«
Et où vas-tu de ce pas ?»«
Où je veux. » Peu importe, il me suffit de le vouloir, je vais partout, je passe partout. Pour croire qu'il était bu aussi un peu pour dire des choses pareilles, ma. Le cornouaillé, que l'étonnement rendit clairvoyant, voulut savoir si c'était là, pure vantardise de pochard. Et puis, qui sait ? Le voilà qui fouille dans ses poches et en sort une vrille. Ne me demandez pas pourquoi il avait une vrille, je n'en sais rien, ma foi. Il avise un tronc d'arbre qui était là, il fait un trou avec la vrille, la montre à son compagnon de bamboche et dit « Et par ce trou-là, tu pourrais passer ?»«
Bien entendu, » répond Arbor.
« Je ne te crois pas, c'est impossible. »«
Comment ça ? Regarde !»
Voilà Arbor qui se fait petit, petit, si petit qu'il finit par être de la bonne taille pour entrer dans le trou. Il y entre. Il y est toujours, même si je ne sais pas ce qu'est devenu le tronc. Parce que, voyez-vous, vif comme l'éclair, le matelot avait aussi sorti de sa poche une toute petite et mince cheville de bois et en avait prestement bouché le trou. Là, une bonne chose de faite. On a oublié aussi ce que le gars est devenu après. Probable qu'il a trouvé à s'embarquer. Et s'il n'a pas fait son trou dans l'eau, c'est qu'il est mort dans un lit. Tous les marins savent que les lits sont des endroits où on meurt encore plus que dans l'eau. Depuis ce temps, la poisse a disparu de Brest. Et les marins d'ici ont le plus souvent de la chance, en particulier sur les quais, quand ils ont bien bu et qu'ils passent d'un bistrot à un autre. C'est fou ce qu'ils ont de chance. Et puis, mourir noyé dans l'eau du port de Brest, c'est pas pour dire.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrix sur Radio U 101.1.
dimanche, la famille, le repas, le dessert et les questions qui dérangent, qui remuent le sang, toute la terre. Comment leur dire que tout est encore à refaire? Il n'est fait
Voilà, Lyrics c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous retrouverons avec plaisir le mois prochain, comme d'habitude, le dernier dimanche de chaque mois à 20h sur Radio U. D'ici là, nous vous souhaitons de belles lectures. Sachez que vous pouvez retrouver les podcasts de l'émission sur la page Lyrics de Mixcloud.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrics sur Radio U 101.1.